Bonjour et merci à Centrale Marseille de son invitation. Je vais essayer en peu de temps d'évoquer ce qui peut faire écart et donc faire réfléchir entre la pensée chinoise et la pensée européenne. Je partirai simplement d'un constat, celui de l'extériorité de la Chine par rapport à l'Europe. Extériorité qui est celle d'abord de la langue. Vous le savez, la langue chinoise n'appartient pas au grand ensemble indo-européen. L'Inde y appartient, la Chine non. Extériorité donc de la langue, extériorité de l'histoire, puisqu'il faut attendre une époque relativement récente, c'est-à-dire le milieu du XVIe siècle, pour que les deux mondes commencent à se rencontrer. En même temps, nous savons tous, la civilisation chinoise est une civilisation développée, textualisée, commentée, bref, tout à fait comparable dans son développement à la civilisation européenne. J'aime citer cette formule de Pascal par la force qui est la sienne quand il dit dans les pensées, lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ? Je trouve la formule forte, forte à la fois par sa forme d'alternative, ceci ou cela, et puis parce que cette alternative, en même temps, est bancale. D'un côté, Moïse, c'est-à-dire figure de l'aventure religieuse européenne, celle qui nous a formés, celle du monothéisme, celle des commandements, et en face, non pas Confucius ou Lao Tzu, mais la Chine. La Chine, espace de pensée dont Pascal, comme ses contemporains d'ailleurs, ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il voit bien quelle contestation elle produit vis-à-vis de la pensée européenne. Lequel est plus croyable des deux, avec ce que le mot croyable a d'essentiel au XVIIe siècle, Moïse ou la Chine. Alors, on dit souvent, la pensée chinoise ou la Chine, c'est si différent. Si différent parce que si distant. Je vous dirais plutôt, au départ, c'est indifférent. C'est-à-dire que nous avons une pensée chinoise qui s'est développée indépendamment de nous, indifféremment à nous. Pour parler de différence, il faudrait déjà que je dispose d'une page où je puisse ranger à droite, à gauche, East and West, la Chine et l'Europe. Or, cette page-là n'est pas donnée, compte tenu de l'extériorité de la Chine par rapport à la tradition européenne. Donc je dirais plutôt indifférence, c'est cette difficulté-là que nous avons à traverser quand nous voulons aborder la pensée chinoise. Franchir cette indifférence, c'est-à-dire faire que les questions que l'on va se poser de part et d'autre, commence à te tourner l'une vers l'autre et à se dévisager, à se réfléchir. Au fond, je crois que aborder la pensée chinoise nous oblige à faire deux choses. D'une part, à éprouver ce que peut être un dépaysement de la pensée, quand on quitte l'Europe et ses vieux parapets, n'est-ce pas, et qu'on débarque en Chine. Qu'est-ce qui arrive à la pensée quand on quitte non seulement nos grandes questions philosophiques, mais quand on quitte aussi la langue qui les articulait? Et en même temps, que ce dépaysement, passer, entrer dans la pensée chinoise, nous invite à nous réfléchir nous-mêmes, c'est-à-dire à revenir sur les parties prises de notre propre pensée pour les réexaminer, pour les ressonder, c'est-à-dire nous conduire à faire réapparaître les choix implicites, les parties pris enfouies de notre pensée que le dehors chinois nous fait redécouvrir, ce qui se véhicule à titre d'évidence dans notre pensée et que par là même nous ne pensons plus. Donc je crois que c'est à cela que nous invite la pensée chinoise, dans ce mouvement d'aller et retour. Et cela nous permet, je crois, de poursuivre ce qui a été le grand développement de la philosophie européenne au XXe siècle, qu'on a qualifié de façon globale comme étant une pensée de la déconstruction. Simplement, la déconstruction de la philosophie s'est faite jusqu'ici du dedans. Et vous savez très bien que quand on a pris du recul, ou pour prendre du recul, à l'égard de la métaphysique grecque, quelque part, on se réadosse à la tradition hébraïque. C'est ce grand mouvement-là qu'a fait l'Europe, n'est-ce pas ? De balancier entre, vous savez, chez nos grands philosophes du XIXe siècle, chez Hegel, chez Nietzsche, chez Kierkegaard, c'est ce mouvement de balancier entre Athènes et Jérusalem, entre le bonheur grec et la conscience malheureuse, entre chez Hegel, ou entre les figures de le juif, le grec, Socrate face à Abraham, etc. Et je crois que justement, passer en Chine, c'est prendre du recul avec cette double source qui nous a formés et entendre d'autres paroles de l'origine, de façon même à nous réinterroger. Alors, comme vous avez le souci de la gestion et de l'efficacité, il me revient d'évoquer un écart de pensée entre la Chine et l'Europe sur la question de la stratégie, de l'efficacité, que je présenterai rapidement sous deux notions. Celle de modélisation d'une part, telle que la tradition européenne nous y a beaucoup formé, et celle de maturation de l'autre, telle que j'essaierai de la concevoir à partir de la pensée chinoise. Donc, modélisation ou maturation, c'est ainsi que j'aborderai la question de l'efficacité et de la stratégie. Modélisation, parce qu'effectivement, si on se tourne du côté grec, on voit bien que la pensée grecque a conçu l'efficacité en termes de modèle. C'est-à-dire, pour être efficace, qu'est-ce que je fais ? Ben, je trace une forme idéale, un modèle, un plan que je pose comme but, et ensuite je m'investis pour faire entrer cette forme modèle dans la réalité. Avec ce que ce faire entrer implique de pression, de forçage. Il faut que la modélisation puisse entrer et s'appliquer dans le tissu des choses. Avec ce couplage de deux facultés qui nous sont familières, l'entendement qui, comme dit Platon, conçoit en vue du meilleur, donc l'optimum, et puis la volonté qui va s'investir pour faire entrer ce meilleur dans la réalité. Ceci a conduit à ce couplage qui nous est si familier qu'on ne songe plus vraiment à l'interroger, qui est celui de la théorie et de la pratique. La forme idéale en théorie et la réalisation pratique. C'est ce qu'on fait déjà en stratégie quand le chef de guerre construit un plan de guerre avant d'engager le combat, avant même d'engager les opérations. C'est ce qu'on fait couramment dans le domaine économique quand on trace une courbe de croissance. On trace un optimum, n'est-ce pas ? Qu'ensuite, il faudra essayer de mettre en œuvre et de réaliser. Ou plus communément dans notre vie, qui est d'abord politique, une constitution. Une constitution, c'est une forme idéale. Même un programme électoral, ça l'est encore un peu. Donc, en tout cas, nous sommes dans cette séparation-là, avec la crainte d'une déperdition de la théorie à la pratique, du modèle à sa réalisation. Alors, est-ce que toute la pensée grecque se limite à ça ? Non. Il y avait notamment dans la Grèce archaïque une notion intéressante, parce qu'on ne sait plus vraiment comment la traduire aujourd'hui, celle de métis, la Grèce archaïque. Donc, avant le développement de la philosophie, comment traduire métis aujourd'hui en français ? Bon, on peut le traduire par le langage familier, mais pas par le langage notionnel. On traduira le flair, comme on dit le flair en affaires. Ben, le flair, ce n'est pas modéliser puis appliquer. Le flair, c'est voir qu'est-ce qui peut être profitable, le sentir dans la situation et, disons, essayer d'en profiter. Mais cette notion de métis, ou traduite par intelligence rusée, mais ce n'est pas de la ruse au sens psychologique, c'est cette capacité de tirer parti de la situation, d'exploiter ces, facteurs favorables. Comme on dit en français, n'est-ce pas, c'est porteur. On dit c'est porteur, on parle d'un marché porteur, on parle de facteur porteur. Porteur, ça signifie justement que toute l'initiative ne vient pas de moi sujet concevant et voulant, mais qu'il y a à même la situation des facteurs favorables, porteurs, qui, si je sais les détecter, pourront justement me porter et m'aider à réussir. Je crois qu'il y a une image qui le dit encore dans notre langage familier, quand on dit surfer. Surfer, ce n'est pas modéliser puis appliquer. Surfer, c'est voir d'où vient la vague et voir comment l'épouser pour se laisser porter par elle et finalement pour aboutir. Bref, je crois qu'il y avait cette notion d'un grâce archaïque, déjà illustrée par la grande figure d'Ulysse. Ulysse aux mille tours, Polytropos. Ulysse n'est pas quelqu'un qui modélise. Ulysse, c'est quelqu'un qui sait surfer, 10 ans, n'est-ce pas, sur la mer. Mais cette pensée-là, nous ne l'avons pas développée parce qu'une autre pensée a prévalu, qui est celle qui a élaboré la philosophie, qui est celle de la modélisation. La forme modèle, paradigme, celle qui a élaboré la tradition platonicienne et la philosophie par la suite. Alors, la question qui se pose, je crois, est la suivante, et en faisant écho à ce que nous avons entendu de Jean-Pierre Raffarin à l'instant. Si l'on veut comprendre pourquoi la civilisation européenne si on met en regard la situation européenne et la situation chinoise, on voit que jusqu'au 14e, 15e, voire 16e siècle, la Chine est aussi développée techniquement, voire plus développée techniquement que l'Europe. Pensez à la poudre, au jonc, à la boussole, pensez à l'hydraulique chinoise, etc. Qu'est-ce qui fait que soudain, dans l'histoire des civilisations, une sorte de déphasage s'est produit et que l'histoire des sciences, qui s'était développée un peu partout dans le monde, en Inde, en Grèce, mais aussi en terre d'islam et aussi en Chine, se trouve à un moment se concentrer dans la seule Europe. Et ce moment, c'est le début du XVIIe siècle. C'est le moment, je dirais, galiléen. Si bien que l'histoire de la science se concentre entre de Florence ou de Pise de Galilée à Descartes à Newton, bref, dans ce petit segment d'Europe. Mais je crois justement c'est grâce à la force de la modélisation et de ce qui était pour nous le modèle du modèle, à savoir la mathématisation. Je crois que c'est ça qui a fait la force de l'Europe, qui a permis d'inventer une nouvelle science, la physique classique, la physique causaliste, mécaniste, bref, celle que nous développons, mais que nous avons développée justement à partir de la fécondité du modèle. Pensez à ce que écrit Galilée dans l'Essayeur. Dieu a écrit le monde en figure de géométrie, et si j'apprends la géométrie, je saurai lire le grand livre du monde. Et donc devenir, comme dit Descartes, n'est-ce pas, maître et possesseur de la nature. Bref, cet héroïsme européen s'est fondé sur la fécondité de la modélisation. La question que je voudrais donc poser ce matin, très brièvement, c'est est-ce que ce qui a été si fécond dans le domaine de la science et de son application à la nature, donc des mathématiques à la physique, vaut tout autant dans le domaine de la stratégie et de l'efficacité? Autrement dit, est-ce que ce qui n'est pas modélisable serait pour autant incohérent? C'est la question que j'aurais posée, et pour essayer d'y répondre mais hâtivement, je me tournerai vers les arts de la guerre de la Chine ancienne, celui qui sont très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde a son Sun Tzu en poche, hein, souvent dans une très mauvaise traduction, je vous mets en garde, pour justement aborder une littérature dont nous n'avons pas l'équivalent en Europe, puisque en Grèce classique ou à Rome, vous avez des traités de guerre de siège, des traités de tactique, là encore c'est la géométrie qui domine, des traités de poïeurtétique, et puis des récits de bataille. Mais nous n'avons pas vraiment de littérature stratégique, en tout cas comparable à celle que nous trouvons du côté chinois. Or, à partir de quoi, sur quoi s'ouvrent les traités d'art de la guerre en Chine? Eh bien, non pas sur le rapport de la modélisation et de son application, mais sur les notions de, je traduirai, par situation, configuration, terrain, xing en chinois. Et puis, ce que je traduirai par potentiel de situation, she. Dans cette notion de potentiel de situation, je récupère justement ce que j'évoquais précédemment à titre de facteur porteur, de capacité à surfer, c'est-à-dire que toute situation est vue comme étant un potentiel. Et au lieu donc de commencer par concevoir un idéal et ensuite le projeter sur la situation, il s'agit plutôt de détecter ce qui, dans la situation, peut être favorable, peut être fécond, peut être porteur, de façon à pouvoir l'exploiter, en tirer profit pour réussir. Et ce qui m'importe, c'est que, vous savez, on a dans la physique classique un théorème du potentiel de situation. On vous dit, si vous accumulez de l'eau en haut d'une pente, en fonction de la masse d'eau accumulée et de l'inclinaison de la pente sous elle, vous pouvez calculer la force avec laquelle l'eau va dévaler. Eh bien, on a exactement la même image dans le Sun Tzu. On vous dit le bon stratège, c'est quelqu'un qui gère ses troupes et qui gère la situation comme si, de façon à avoir toujours une pente sous lui. Être un bon stratège, c'est trouver de la pente. Trouver de la pente de façon à pouvoir faire dévaler ses effets. L'intérêt, à mon sens, c'est que les Chinois ont poussé ça très loin. Notamment au point de dire, je cite le Sun Tzu, « Courage et lâcheté sont un effet de potentiel de situation. » Alors que nous aurions plutôt tendance, nous, Européens, à considérer le courage ou la lâcheté comme une vertu ou un défaut du sujet, « Je suis lâche ou courageux », les Chinois nous disent, enfin les anciens stratégistes nous disent, « Non, courage et lâcheté, c'est un effet de situation. » C'est la situation qui vous rend lâche ou courageux. Et au général, on ne demande pas de faire comme on fait en Grèce, à savoir un beau discours aux troupes pour les enhardir, pour leur donner du courage. Mais ce qu'on dit dans le Sun Tzu, à savoir faites entrer vos troupes loin en territoire ennemi, coupez-leur toute voie de repli, vous les bloquez dans une nécessité de courage. On dit dans le Sun Tzu, faire monter haut et puis vous enlevez l'échelle. Vous bloquez, vous acculez dans une position de courage. C'est la situation qui rend courageux. Je crois que ça a fait réfléchir parce que, vous voyez, cela met en cause d'abord notre conception du sujet, du moi-sujet, Et puis cela nous conduit plus loin, parce que cela conduit à remettre en question ce qui est sous-entendu dans le rapport modélisation-application tel que la pensée grecque nous l'a, disons, appris, qui est de sortir du rapport moyen-fin. Parce que je crois que nous avons conçu l'efficacité en Europe, en termes donc de forme modèle, de plan posé comme but, comme fin, et ensuite, à nous de trouver les moyens qui conduisent le plus directement à la fin visée. C'est comme ça que Clausewitz, eh bien, conçoit l'efficacité. Il nous dit que l'efficacité, c'est trouver les moyens les plus directs pour atteindre la fin visée. Donc on est dans ce rapport moyen-fin. Or, et je crois d'ailleurs que c'est toute la pensée grecque qui s'est moulée dans cette notion de moyen et de fin, avec cette importance de la fin, telos, n'est-ce pas, comme étant ce à quoi tout aboutit et ce qui donc, dès le départ, conduit le développement des choses. Vous voyez ce que nous dit Clausewitz lui-même, n'est-ce pas, à la guerre, tout engagement est le moyen d'une fin qui est la bataille. La bataille est le moyen d'une fin qui est la victoire. La victoire elle-même est le moyen d'une fin qui est une fin politique. Et donc on a une sorte de construction pyramidale, une sorte d'architectonique des fins, où tout niveau est à la fois la fin du niveau inférieur et le moyen du niveau supérieur. On a la même construction dans le domaine de l'éthique. Prenez Aristote. Eh bien, toutes nos activités, dit Aristote, sont conduites par des fins, qui sont des fins secondes. Par exemple, nous dit Aristote, quand je me promène, c'est pour la santé. Il y a toujours un pour, n'est-ce pas, un en vue d'eux qui conduit l'action. Donc toutes nos actions, toutes nos activités sont conduites par des fins qui tendent à d'autres fins qu'elles-mêmes, qui elles-mêmes tendent à d'autres fins, jusqu'à aboutir à une fin suprême, une fin qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même, une fin dernière, et cette fin dernière, les Grecs l'ont appelée le bonheur. Donc nous avons la logique qui nous vient des Grecs, est une logique téléologique, c'est-à-dire construite dans cette idée d'une fin qui conduit, qui attire à elle le développement des choses. Or, si vous regardez les textes de stratégie chinois, vous ne trouvez pas ce rapport de moyen à fin, mais plutôt celui de condition à conséquence. Au fond, être mon stratège, c'est aménager des conditions en amont telles que l'effet ensuite découle tout seul en aval. L'effet soit donc comme accouché par la situation. Donc aménager en amont des conditions telles que l'effet ensuite découle de lui-même, sans même qu'on se rende compte, en aval. On vous dit ainsi, l'ennemi arrive reposé, commencez par le fatiguer. L'ennemi arrive rassasié, commencez par l'affamer. L'ennemi arrive uni, commencez par le désunir. C'est-à-dire au fond, aménager progressivement des conditions telles que ensuite, quand vous rencontrez l'adversaire, il est déjà défait, il est déjà décontenancé, donc il tombe tout seul. D'où cette phrase très forte dans le Sun Tzu où il est dit, et qui fait vraiment écart par rapport à notre tradition de réflexion sur la guerre, y compris chez Clausewitz, vous savez bien que du côté européen, on a fait une sorte de grand trou dans notre rationalité, plutôt deux trous dans notre rationalité de la stratégie. L'un, c'est ce qu'on appelle le coup de génie. Et le coup de génie, c'est quoi? C'est qu'on laisse tomber tous les plans dressés d'avance, parce qu'on voit qu'ils ne correspondent plus à la situation qui émerge. Et donc il faut réagir à vif à ce qui surgit des circonstances pour s'y adapter. Le coup de génie, avec ce coup, fait trou, n'est-ce pas, dans notre pensée, la stratégie. Et puis d'autre côté, ce qu'on appelle d'un terme forcément vague, parce que la chose est vague, le destin, les dieux, la chance, la fortune, Dieu avec nous, n'est-ce pas, ce qu'on trouve à travers toute la tradition de réflexion sur la guerre. Comme nous dit Clausewitz, la guerre à la fin des fins, eh bien c'est toujours un jeu de cartes. Alors qu'il est dit dans le Sun Tzu, à la guerre, cette phrase que je trouve très forte, n'est-ce pas ? À la guerre, cela ne dévie pas. La guerre, ça ne dévie jamais, puisque la guerre, c'est toujours la résultante du potentiel de situation. Et donc, vous, stratège, vous n'avez qu'à faire qu'une chose, c'est faire en sorte de faire croître, à titre de condition, en amont, ce potentiel de situation, et vous n'abordez l'adversaire que quand le potentiel a basculé de votre côté, que l'ennemi est déjà défait, qu'il ne vous résiste donc pas, et que vous gagnez à coup sûr. Ce qui conduit à ces phrases qui sont marquantes dans le texte de Sun Tzu, quand il est dit « Les troupes victorieuses sont les troupes qui ont vaincu avant d'engager le combat. Les troupes vaincues sont des troupes qui ne cherchent la victoire qu'au moment du combat. » Tout se passe donc en amont, tout se passe donc au niveau des conditions. La bataille n'est qu'un résultat. Ce n'est pas une rencontre, c'est un résultat. Ou encore cette autre formule, qui je crois vaudrait aussi dans le monde des affaires, quand il est dit « Du grand général, il n'y a rien à louer, ni grande sagacité, ni grand courage. » Je crois que ça vaut dans le monde des affaires, ça vaudrait aussi peut-être dans le monde politique. Du grand général, il n'y a rien à louer. Pourquoi ? Pourquoi ni grande sagacité, ni grand courage ? La grande sagacité, c'est celle du plan de guerre. Le grand courage, c'est celle justement de la volonté du général qui irait devant ses troupes, n'est-ce pas ? Suivez mon panache blanc. Non, du grand général, on ne dit pas qu'il n'y a pas de grand général, on dit mais du grand général, il n'y a rien à louer. C'est-à-dire que les généraux qu'on pense à louer sont de piètres généraux, ceux à qui on dresse des statues. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez si bien fait advenir ce potentiel de situation, si vous avez si bien capitalisé en termes de facteurs porteurs, en termes de ce qui est favorable, eh bien, quand vous abordez l'ennemi, il est déjà défait. Donc vous rapportez une victoire que personne ne songe à célébrer. On va dire, c'était facile, c'était joué d'avance, c'était déjà gagné. Ça, c'est la grande stratégie. Une stratégie, donc, qui ne se voit pas. Et voyez à quel point elle dérange notre attente de spectaculaire, voire de théâtral, que nous avons, nous, liée à, disons, au théâtre de la guerre. Je dis, ça pourrait être d'ailleurs aussi dans le monde de l'économie. Vous voyez, les grands stratèges de l'économie à qui on passe des statuts, et puis trois ans plus tard, ou même avant, eh bien, ils ont fait faillite, ils ont disparu, alors qu'il y a des entreprises, on le sait bien, qui croissent comme ça, discrètement, en faisant comme ça, en amplifiant leur potentiel de situation. Et ça vient tout seul, n'est-ce pas ? Sans qu'il y ait rien de saillant, de remarquable, bref, qui puisse, disons, être célébré. Alors, évidemment, il y a quelque chose de frustrant pour nous. C'est en termes de gloire du sujet. C'est qu'évidemment, si vous réussissez si bien, réussissez si bien qu'on ne le voit pas, quelque part, évidemment, c'est frustrant. D'où l'autre thème, formule forte aussi dans le Sun Tzu, n'est-ce pas ? Quand on dit, et ça c'est logique, voyez comment tout ça est cohérent, que le grand général remporte des victoires faciles. Alors qu'on sait, par tout ce qu'on a lu dans les traités de stratégie occidentaux, que l'efficacité est proportionnelle à la difficulté rencontrée. C'est ce que nous dit Bram Clausewitz à propos de l'effet de surprise. Plus l'effet a été difficilement obtenu, plus il est efficace. Ce qui signifie pour nous que la facilité et l'efficacité sont inversement proportionnelles. Je vais vous dire, pas du tout. Pas du tout. La grande stratégie, c'est de faire que ce soit toujours dans la facilité. De façon à ce que, et pour cela, il faut qu'il y ait du processus, vous aménagez les conditions en amont de façon favorable, et vous ne commencez à engager les opérations que quand vous avez déjà gagné. Donc, que cela paraît découler de source. Je vois, voyez, que cela dérange notre conception de l'efficacité. Donc, j'ai dit du côté européen, modélisation-application, rapport moyen-fin. Et je mettrai encore du côté européen ce terme inévitable, l'action. Comme quand on dit un homme d'action. Théorie, pratique. Pratique, c'est faire. Pratein en grec, c'est faire, il faut accomplir. Non seulement l'entendement, mais aussi la volonté.